Bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien de ce 15 novembre 2017. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Vous êtes de retour en même temps que le soleil.
C'est moi, je m'étais sauvé avec.
Oui, alors ça va bien?
Ça va formidablement bien.
Ben vraiment, je suis contente de vous l'entendre dire et je vous écoute dans la chronique éphéméride.
Aujourd'hui, en ce 15 novembre, nous soulignons la Journée mondiale des écrivains en prison. Journée organisée depuis 1981 afin d'attirer l'attention mondiale sur les écrivains et journalistes dont leur travail leur attire des représailles. Et totalement non en lien avec cette journée, on parle aussi de la Journée mondiale du recyclage.
Oui, il n'y a pas de lien, il faut être bien de le souligner. Mais on s'en serait peut-être rendu compte.
Ouais, ne prenons pas de chance. 15 novembre dans l'histoire, tout d'abord en 1492, dans son journal, l'explorateur Christophe Colomb signale l'usage du tabac par les indigènes des Antilles. 1765, à Québec, le révérend George Henry ouvre la première église presbytérienne au Canada. 1920, 15 novembre, à Genève, première assemblée de la Société des Nations, créée après la Première Guerre mondiale, qui était une initiative des États-Unis, qui n'en furent même pas membres. 1928, le régime de Benito Mussolini proclame le Grand Conseil fasciste institution suprême de l'Italie. 1948, toujours un 15 novembre, le premier ministre William Lyon Mackenzie King annonce son départ. Louis Stephen Saint-Laurent lui succédera. 1960 à Toronto, quatre experts concluent que l'amende de Lady Chatterley de D.H. Lawrence n'est pas obscène au sens criminel. 15 novembre 1969, à Washington, 250 000 manifestants dénoncent la guerre au Vietnam. 1974, un accord de principe de 22 pages sur la baie James est conclu par les Cris et Québec. L'entente sera paraffée le 11 novembre 1975. 15 novembre 1976, élection générale au Québec, René Lévesque devient premier ministre du Québec et le Parti québécois, le parti politique souverainiste, faut-il le rappeler, arrive au pouvoir pour la première fois depuis sa fondation, qui succède au gouvernement libéral de Robert Bourassa. 15 novembre 1989, un premier sénateur canadien est accusé en vertu du code criminel pour détournement de fonds. 1996, la pétrolière Texaco règle pour un maigre 176 millions de dollars américains une poursuite en discrimination intentée par des employés noirs. 15 novembre 2004, le secrétaire d'État américain Colin Powell remet sa démission, oui, à George W. Bush. Condoleezza Rice lui succède. 2005, André Boisclair est élu chef du Parti québécois. Monsieur Boisclair qui, encore une fois, a défrayé la manchette, mais pas pour des bonnes raisons la semaine dernière. Et puis, 15 novembre 2010, autre fait dont on se serait passé, l'ex-ministre péquiste Serge Ménard révèle que le maire de Laval, Gilles Bayancourt, donc on est en 2010, je rappelle, lui aurait offert 10 000 $ en argent comptant lors d'élections complémentaires en 1993. Anniversaire en ce 15 novembre, anniversaire de naissance de la chanteuse anglaise Petula Clark, née le 15 novembre 1932.
Qui va bientôt nous offrir un album qui a été créé au Québec.
Super!
Oui.
Et finalement, décès en 1976 de l'acteur français Jean Gabin.
Ah, merci beaucoup Jean-Sébastien.
Avec grand plaisir.
À la une de la presse, l'exploit d'un jeune trisomique, Arnaud Lemay, a de quoi être fier de lui. Le jeune homme de 19 ans vient d'obtenir son permis de conduire, un fait rarissime pour une personne atteinte de trisomie 21, selon la Société de l'assurance automobile du Québec. Exclusif, un cadeau de Noël de 1 milliard de dollars pour les contribuables, Québec s'apprête à annoncer une baisse d'impôts. Et la chronique de Mario Gérard intitulée « Adam et Ève dans une cabine ». Enquête, art, inconduite sexuelle, des reproches faits à un important collectionneur, une douzaine de personnes ont dénoncé les gestes de François Odermatt. Carlos Letao déposera une synthèse des opérations financières mardi prochain à l'Assemblée nationale. C'est un texte de Denis Lessard. Le gouvernement Couillard se prépare à annoncer une baisse générale de l'impôt des particuliers, un allègement de près de 1 milliard à même les surplus de 2 milliards dégagés après 3 ans d'austérité budgétaire. La synthèse des opérations financières de Carlos Letao sera déposée mardi prochain, le 21 novembre, à l'Assemblée nationale à temps pour réconforter les militants libéraux réunis en congrès la fin de semaine suivante. La baisse d'impôts touchera l'ensemble des contribuables, enfin ceux qui paient des impôts. Presque 40 % des citoyens ne paient pas d'impôts si on tient compte des fiscalités provinciales et fédérales. Une règle admise indique que pour réduire l'impôt de 50 $ à l'ensemble des contribuables, Québec se prive de 250 millions de revenus. Une baisse aussi réduite avait été ridiculisée par l'opposition au dernier budget. Des sources fiables indiquent qu'il faut s'attendre à ce que Québec injecte près de 1 milliard dans l'allègement de l'impôt des particuliers, ce qui réduirait le fardeau fiscal d'environ 200 $ par contribuable. En annonçant ses intentions avant le 1er janvier, Québec fait en sorte que les employeurs pourront appliquer les nouvelles tables dès le début de l'année. Les contribuables à haut revenu profiteront aussi de la fin de la taxe santé, une réduction d'environ 1 000 de leur impôt. La synthèse annoncera aussi les fonds aiguillés vers le troisième plan de lutte contre la pauvreté visant essentiellement les personnes qui vivent seules. La chronique de Mario Girard, Adam et Ève dans une cabine. Ainsi donc, on ne veut plus de nudité, dis-je bien, dans les vestiaires des piscines de Brossard. Cette décision a été prise à la suite de quelques plaintes, une dizaine au cours de la dernière année, que les responsables des installations aquatiques ont reçues. À l'instar d'autres piscines, celle de Brossard adopte le principe de nudité zéro. On demande aux gens de se dévêtir ou de se rhabiller dans des cabines. On spécifie bien qu'il ne s'agit pas d'un règlement, mais d'une consigne. Vous vous demandez peut-être si tout cela ne découle pas des demandes d'accommodement raisonnables. On m'a juré que non. La présidente de l'Association des responsables aquatiques du Québec, ARAC, Lucie Roy, m'a dit que les plaintes reçues par ses membres concernent très peu les questions religieuses. Madame Roy m'a plutôt parlé d'un problème de mixité. La présence d'adultes nus devant des enfants et la cohabitation avec des personnes transgenres serait à la source d'une vaste réflexion que les membres de l'ARAC, donc l'Association des responsables aquatiques du Québec, ont en ce moment. L'association a même créé une sorte de babillard afin de permettre aux membres de s'exprimer sur le sujet. Le concept de vestiaire universel mis de l'avant par Brossard connaît une grande expansion. Et pas seulement chez nous. Les piscines et les centres sportifs datant de quelques années incitent les usagers à imiter la façon de faire de la ville de Brossard. Certains endroits ont aussi créé des vestiaires familiaux où les parents peuvent aller avec leur enfant s'il est âgé de 7 ans au moins. Le concept de vestiaire universel atteint toutefois son paroxysme avec les nouvelles piscines. Il prend la forme d'une salle commune vitrée visible depuis la piscine dans laquelle tout le monde peut entrer. Une fois à l'intérieur de cette aire, les personnes peuvent se dévêtir dans une cabine individuelle ou familiale et elles peuvent prendre leur douche en privé. Bref, tout le monde peut cacher ce qu'il a à cacher. À première vue, cette manière de faire ne me pose pas de problème. Après tout, on ne va pas dans un vestiaire pour se dandiner à poil. On y va pour se préparer à faire du sport. Mais j'avoue que j'ai un problème avec cette pudeur à plusieurs vitesses. D'un côté, on veut qu'on se cache le zizi, entre parenthèses, je parle pour moi bien sûr, dans les vestiaires. Mais de notre côté, on réclame des plages nudistes ou le droit d'être seins nus. On fait la promotion du body positivisme et on chante les louanges du naked yoga. On est en train de créer un clivage de plus en plus grand entre les personnes pudiques et ces dépravés qui n'ont pas peur de la nudité. Si vous voulez être nu, allez le faire entre vous. C'est ça le message qu'on envoie. Je n'ai absolument rien contre ceux qui préfèrent enfiler leur maillot derrière un rideau. Ils ont le droit de le faire, mais ne créons pas d'obligation non plus. N'indiquons pas le chemin de la cabine à ceux qui n'en ressentent pas le besoin. Les vestiaires communs existent depuis que les piscines et les centres sportifs existent. Et là, tout à coup, on entre dans l'ère de la cabine privée. Les Québécois se sont débarrassés d'une culpabilité qui pesait lourd avant la Révolution tranquille. En quelques années, on est passé des fameux « d'or les mains sur la couverture » à une liberté qui nous a fait progresser rapidement sur tous les plans. Ça serait trop bête de reculer. Et dire qu'on fait tout cela pour qu'un enfant ne puisse pas voir un adulte nu alors qu'il sera adulte un jour. On fait tout cela pour ne pas voir le corps flétri des personnes plus âgées, alors qu'on aura tous le corps flétri un jour. On fait tout cela pour ne pas voir d'autres gens nus alors que notre quotidien nous renvoie sans cesse des images de nudité. La nudité passe quand elle est dans un magazine, dans un film ou dans un bar de danseuse. La nudité passe quand elle est enrobée de fantasmes. Mais quand elle est au naturel et sans artifice, sous les néons de vestiaire, cette nudité-là devient inacceptable. Vous ne trouvez pas que tout cela est d'une hypocrisie sans borne? Nous demandons à Adam et à Ève d'aller se changer dans une cabine. On va bientôt leur demander de jeter leurs pommes aux poubelles. Le Collège des médecins s'est entendu avec les physiothérapeutes pour leur permettre, dans un horizon d'un an, de prescrire eux-mêmes des radiographies, essentiellement en cas de soupçon de fracture. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, reste sur son compte à soi pour l'instant. Après avoir donné de la latitude aux pharmaciens et aux infirmières, le Collège des médecins a accepté en conseil d'administration le 20 octobre que les physiothérapeutes puissent prescrire des radiographies pour des conditions aiguës et traumatiques du système musculo-squelettique, indique en entrevue téléphonique Denis Pelletier, physiothérapeute et président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie. Cette entente vise aussi bien les physiothérapeutes qui travaillent dans le réseau public que ceux qui travaillent dans le réseau privé. M. Pelletier estime que cet accord évitera aux gens jusqu'à 12 heures d'attente aux urgences, dans la mesure où une fracture à un bras ou à une jambe n'est pas en haut des priorités quand on se présente à l'hôpital. Coup de fil au cabinet du ministre de la Santé pour avoir ses commentaires. Surpris, Gaétan Barrette, qui n'avait pas vu l'entente, a illico appelé au Collège des médecins pour en savoir davantage. Le docteur Barrette nous est revenu ensuite, disant qu'il n'a pas apporté de jugement sur cette entente entre les deux ordres qui, selon ce qu'il en comprend, se veut comparable à celle des infirmières praticiennes qui travaillent directement avec des médecins. Mais d'aucune façon, on ne va voir un physiothérapeute pour ça. Une fracture, insiste le docteur Barrette, qui ajoute qu'il ne saurait être question d'une mise en place d'un nouveau réseau parallèle dans lequel le physiothérapeute pourrait prescrire isolément des radiographies dans son cabinet privé.
J'ai reçu ta carte hier. Merci du temps des fêtes, de papier rouge et vert, de l'or pour les plus fiers. Je sais pas si je vais venir. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Je passerai Noël sur un avion, sur un bateau au milieu de l'eau, Noël sur une montagne, en Espagne, en Bretagne, Noël sur la lune, ou peut-être sur Saturne, Noël, Noël partout, sauf chez nous. Ah, ah. Chanter l'hiver ou accrocher des lumières, danser autour du sapin et faire semblant d'être bien. Je veux pas être méchant, mais je serai absente. Je passerai Noël sur un avion, sur un bateau, au milieu de l'eau. Noël sur une montagne, en Espagne, en Bretagne. Noël sur la lune, ou peut-être sur Saturne.
Mesdames et messieurs, je suis allé faire un tour à l'extérieur de la région de Montréal ce week-end et j'ai pu constater que oui, les gens mettent déjà leurs décorations de Noël, telles que Safia Nolin nous le rappelait à l'instant, c'est Noël partout.
À la une du Devoir de ce 15 novembre, Parti libéral du Québec, pas une loi ne serait adoptée sans un examen de ses effets sur les anglophones. L'offensive de charme auprès de cet électorat sera discutée au Congrès. Le bilan de santé annuel est inutile. Une nouvelle étude démontre que les médecins devraient consacrer leur temps à soigner les malades plutôt qu'à examiner les biens portants. Arvida, l'ambition d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après le Vieux-Québec, Percé et le Mont-Royal, la ville industrielle d'Arvida complétera bientôt la prestigieuse liste des 12 sites patrimoniaux reconnus du Québec. À la veille d'une consultation clé sur le projet, Zoom sur un site patrimonial aussi méconnu que particulier. Quand on va être prêt, ça va être un point d'intérêt extrêmement important au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va devenir un attrait touristique, lance le conseiller municipal Carl Dufour. Voilà près de 10 ans que M. Dufour milite pour la reconnaissance du vieux site de l'Aluminium Company of Canada. Il n'a jamais été aussi près du but. Où sont nés vos voisins? Parc Extension, une terre d'accueil aux 1000 couleurs. Taxation, la croisade de Pierre-Carl Péladeau. Et inégalité moins criante au Canada qu'ailleurs. La commission politique du Parti libéral du Québec, PLQ, prend à bras le corps les préoccupations des troupes de Philippe Couillard pour le sort des Québécois anglophones. Elle suggère au gouvernement du Québec de se préoccuper des citoyens d'expression anglaise lors de l'élaboration de tout nouveau projet de loi ou règlement. Dans un souci de maximiser la participation des citoyens d'expression anglaise à l'avancement de la société québécoise, la commission politique présente 5 résolutions concernant les anglophones. Ces résolutions feront l'objet d'un débat et d'un vote de la part des membres du PLQ qui se réunissent en congrès à Québec du 24 au 26 novembre. La commission politique propose de s'assurer d'avoir une représentativité des personnes issues de ces communautés anglophones au sein de la fonction publique et des instances décisionnelles. Les résolutions suivent une série de gestes faits par le gouvernement Couillard afin de tendre la main aux anglophones du Québec que le premier ministre tient à appeler « Québécois de langue anglaise ».« We need you », leur disait-il en nous, dans son discours de clôture du Congrès des jeunes libéraux. Le 33e congrès des membres du PLQ sera aussi l'occasion pour la commission politique de présenter deux résolutions reprenant des idées mises en avant par la coalition Avenir Québec. L'une d'elles rappelle en partie un souhait formulé en 2016 par le chef caquiste François Legault, qui avait dit vouloir rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. La commission politique du PLQ suggère par ailleurs d'instaurer un recours civil accéléré pour les victimes d'agressions sexuelles et d'investir davantage dans la maîtrise du français technique chez les immigrants, afin d'augmenter l'employabilité des immigrants qualifiés qui parlent déjà le français. Une nouvelle étude le confirme, l'examen médical annuel est inutile et n'améliore pas la santé. Dans le but de décourager les omnipraticiens de continuer à l'offrir à leurs patients, cet acte a d'ailleurs été aboli en 2016 et son équivalent est aujourd'hui moins payant pour les médecins. Cette fois, c'est le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs qui, dans un article publié dans le Médecin de famille canadien, réclame l'abandon du bilan de santé annuel étant donné qu'il n'aboutit pas à de meilleurs résultats de santé, et qui peut mener au surdiagnostic et à des interventions médicales inutiles qui peuvent même nuire aux patients. Mais l'examen médical annuel n'est-il pas de la prévention? Nous privilégions des mesures de prévention qui fonctionnent et qui ont fait l'objet d'études ayant montré qu'elles aidaient les patients, souligne le Dr. Brett Toms de l'Université McGill, qui dirige le groupe d'études canadien, avant de donner des exemples qui ont fait leur preuve, tels que la mammographie chez les femmes de plus de 50 ans, le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes et de l'anévrisme de l'aorte abdominale chez les hommes âgés de 65 ans à 80 ans. Le Dr. Toms fait également remarquer que si les médecins omnipraticiens ne faisaient plus ces examens annuels inutiles, ils seraient plus disponibles pour les patients qui sont malades. Notre recommandation ne vise pas à réduire les coûts, mais plutôt à utiliser les ressources plus efficacement, dit-il. Les sinistrés du cafouillage de l'autoroute 13 ont obtenu le feu vert de la Cour supérieure du Québec. Elle a autorisé mardi une action collective qui pourrait coûter plus de 4 millions de dollars au gouvernement du Québec et à la Ville de Montréal. Le juge Donald Bisson s'est rangé du côté du citoyen Gilles Desbeauchamp, qui réclame des dommages de 2 500 $ au nom de tous les automobilistes coincés dans le bouchon monstre de la tempête du 14 mars dernier. Son jugement ne concerne en rien le fond de l'affaire, mais il donne néanmoins une première victoire à ceux qui ont décidé de poursuivre le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et la Société de l'assurance automobile du Québec pour leur gestion chaotique des événements. Si l'action collective autorisée mardi mène à un jugement favorable aux demandeurs, toutes les personnes qui ont été immobilisées dans un véhicule sur l'autoroute 13 Sud ou sur l'autoroute 520 Est à Montréal au cours de la période s'étendant du 14 mars 2017 à 19h jusqu'au 15 mars 2017 à midi pourront obtenir des compensations financières en fonction des dommages moraux, punitifs et matériels qu'elles ont subis. Au total, il serait 1649 à demander d'être indemnisés, avance l'un des avocats de la poursuite, Marc-Antoine Cloutier. L'action collective prévoit des indemnisations de 2 000 $ par personne pour les dommages moraux et de 500 $ par personne pour les dommages punitifs, en plus des montants équivalents aux dommages matériels subis par chacun de ses membres. Le frère Olivain Leblanc de la Congrégation de Sainte-Croix a été condamné mardi à 15 mois de prison à purger à domicile. Il a plaidé coupable à une accusation de grossière indécence commise sur un mineur à la fin des années 1970. Le frère Leblanc était professeur d'anglais au Collège Notre-Dame au moment des crimes. La victime, qui avait 13 ans, a subi des sévices sexuels sur une période de près de 2 ans. Le nom de l'accusé, âgé aujourd'hui de 75 ans, sera inscrit au registre des délinquants sexuels pour les 20 prochaines années. La ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, annonce une aide additionnelle d'environ 2 millions au plan d'action sur le livre. Cette somme vise à prolonger d'une année les retombées du plan lancé en 2015. Le plan d'action comportait 12 mesures soutenues par des investissements de 12,7 millions sur 2 ans. L'aide supplémentaire comprend 1 million pour l'industrie du livre versé par l'entreprise des programmes de la SODEC. Elle comprend aussi un montant de 100 000 $ pour préparer la présence du Québec à la foire de Francfort en 2020. À ces sommes s'ajoute un investissement de 870 000 pour l'acquisition par les bibliothèques scolaires des écoles primaires et secondaires de livres de littérature jeunesse édités au Québec. La ministre fait aussi valoir que la subvention annuelle accordée aux bibliothèques publiques autonomes s'élève maintenant à 20,1 millions pour 2017-2018. Et Marcel Groslot est réélu sans opposition pour un 4e mandat consécutif à la présidence générale de l'Union des producteurs agricoles, UPA, producteurs laitiers de Thetford Mines. Il occupe la présidence générale de l'UPA depuis décembre 2011. Il était de 2004 à 2011 président de la Fédération des producteurs de lait du Québec. Vous écoutez Canal M de Vues et Voix et c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Merci d'être à l'écoute de Les Voix de service quotidien qui se poursuit dans un petit moment avec, entre autres, la revue de presse du Journal de Montréal.
No, we ain't kids no more. I'm giving you up, I've forgiven it all. You set me free.
Send my love to your new lover, c'était Adele.
À la une du Journal de Montréal, champagne, steak de thon, cascade de fruits frais, truffes, majordome en tuxedo et serveuse en kimono pour ministre au pluriel et entrepreneur au pluriel, page 2 à 5, gros party de libéraux. On a la photo de Marc Bibeau, organisateur. Il n'est pas mentionné Marc Bibeau, mais on a sa photo et sous sa photo, il y a le mot organisateur. Sous la photo de Jean Charest, il y a les mots invité vedette et sous la photo de Philippe Couillard sur une liste d'invités. Exclusif donc au bureau d'enquête, à la résidence de Marc Bibeau, on faisait ce qu'il fallait pour créer une belle opportunité. L'ex-argentier libéral Marc Bibeau a organisé au moins 7 somptueuses réceptions pour mettre en contact les ministres du gouvernement libéral et les gens d'affaires qui contribuaient à la caisse du parti, a appris notre bureau d'enquête. Au printemps, notre bureau révélait que l'UPAC enquêtait sur M. Bibeau et l'influence qu'il aurait eue sur le premier ministre Jean Charest. Dans les jours qui ont suivi, le patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, a témoigné en commission parlementaire pour préciser que l'enquête était toujours en cours après avoir été paralysée par un recours de Marc Bibeau concernant le privilège avocat-client devant la Cour suprême. Le plus haut tribunal du pays n'a finalement pas accepté d'entendre les avocats de Marc Bibeau. L'enquête a repris et se poursuit toujours 4 ans après son lancement. Selon des témoins qui ont participé à ces soirées somptueuses et qui ont requis l'anonymat, M. Bibeau était un incontournable qui avait un contrôle exceptionnel sur le pouvoir politique à Québec. Et un peu plus loin, on peut lire un autre article intitulé « De nombreux appels entre Jean Charest et Marc Bibeau ». Le collecteur de fonds du Parti libéral du Québec, Marc Bibeau, était tellement proche du premier ministre Jean Charest que son cellulaire a appelé plus de 570 fois des numéros de téléphone associés à Jean Charest de 2006 à sa défaite électorale en 2012, révèle des analyses de registres téléphoniques consultés par le bureau d'enquête. Les enquêteurs allèguent que M. Bibeau avait non seulement une influence, mais une emprise sur le premier ministre, le gouvernement, les organismes publics et le PLQ, selon nos informations. Accusés d'avoir floué 700 retraités californiens, dénoncés par une voisine qui les entendait arnaquer des aînés au téléphone, 3 présumés escrocs de Montréal devront maintenant faire face à leurs victimes devant la justice américaine. Ainsi en a décidé la Cour d'appel du Québec à l'endroit de Jean-Sébastien Gaudreau, 43 ans, et de son frère Pascal, 46 ans, et de Gabriel Frenette, 27 ans, qui ont ainsi épuisé leur recours judiciaire visant à éviter leur extradition la semaine dernière. Détenus, les trois présumés escrocs seront escortés en Californie afin de subir leur procès pour une fraude grands-parents totalisant 600 000 $. Ils sont passibles d'une peine minimale d'incarcération de 5 ans, advenant leur culpabilité. Ils pouvaient gagner plus de 30 000 $ par semaine selon les documents judiciaires mis en preuve. En se faisant passer pour des avocats ou des fonctionnaires, ils persuadaient présumément ces victimes vulnérables que leurs petits-enfants avaient un besoin urgent d'argent après avoir été impliqués dans un accident de la route ou s'être fait arrêter par la police. Mais en octobre de la même année, une voisine exaspérée d'entendre le manège des accusés à travers les murs de cet immeuble de la rue Saint-Hubert a alerté la police. Un enquêteur de la Gendarmerie royale du Canada s'est présenté chez elle et a lui-même entendu les suspects en train de flouer une personne âgée de plusieurs milliers de dollars en inventant une histoire d'accident. Puis il a cogné à la porte de leur logement et Jean-Sébastien Gaudreau lui aurait ouvert. Ce dernier ne s'attendait tellement pas à voir un policier qu'il avait à la main une liste de noms de victimes potentielles, des montants inscrits vis-à-vis certains noms, a notamment relaté le juge Louis Rochette de la Cour d'appel. Au procès, la poursuite entend faire témoigner plusieurs victimes âgées entre 75 et 86 ans et habitant en Californie. Je voulais juste ajouter que cette histoire s'est déroulée entre les mois de juillet jusqu'à novembre 2011. Malgré les centaines de millions de dollars déjà dépensés par Ottawa sur le système de paie Phoenix, un des principaux syndicats de la fonction publique a exhorté hier le gouvernement à larguer le logiciel défectueux afin d'en concevoir un nouveau. Selon l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, qui représente plus de 50 000 fonctionnaires fédéraux, la situation de Phoenix est sans espoir. Assez, c'est assez. Après 2 ans de problèmes, nos membres ont perdu confiance. Nous avons besoin d'un système qui marche, a déclaré en conférence de presse la présidente du syndicat, Debbie Davio, rappelant que la paie de plus de 150 000 fonctionnaires avait été affectée. L'opposition conservatrice qualifie de propagande payée par l'argent des contribuables un site web lancé hier par le gouvernement Trudeau où on peut suivre ses progrès dans la réalisation de ses promesses. C'est un outil de relations publiques pour faire de la propagande, a dit le député québécois Alain Raillez. Mise en place par le Bureau du Conseil privé, la plateforme canada.ca/résultats au pluriel rencontre publiquement des avancées de chacun des ministres par rapport aux engagements qui figurent dans leurs lettres de mandat. Ces lettres sont distribuées aux ministres au moment de leur entrée en fonction et énoncent les attentes du premier ministre à leur endroit. Les partis d'opposition y voient une façon pour le gouvernement libéral de redorer son image. Il se voit comme un justicier de la toile, un homme qui a menacé des vedettes restera détenu. Les propos inquiétants tenus par l'homme qui a menacé de mort les humoristes Guy Nantel et Mike Ward ainsi que l'ex-dragon François Lambert ont amené le juge Jacques Ouellet à le garder détenu. Charest s'excuse et nie avoir abusé de 9 skieuses. Il pourrait être libéré en décembre si le juge suit la recommandation de la défense. L'ex-entraîneur de ski Bertrand Charest s'est adressé pour la première fois à ses 9 victimes hier et s'est excusé, mais a nié toutes les agressions sexuelles pour lesquelles il a été reconnu coupable. « Je réalise qu'à 25 ans, je n'avais pas la maturité ou tous les outils pour bien vous guider en passant 10 mois par année avec vous loin de la maison. » Malgré toutes mes tentatives de faire le bien autour de moi au cours de toutes ces années, je suis vraiment désolée de n'avoir pu soulager vos souffrances. Je n'ai jamais eu l'intention et la volonté consciente de vous blesser, a ajouté Charest, toujours ému. L'avocat de Bertrand Charest, Antonio Cabral, propose une sentence de 4 à 6 ans de détention. Ayant déjà purgé 3 ans de détention préventive, comptant pour 4 ans et 2 mois, il se pourrait qu'il sorte de prison dès le mois de décembre si le juge décidait de lui imposer une peine de 4 ans, comme le réclame son avocat. Le juge rendra sa décision le 8 décembre. La mairesse désignée Valérie Plante souhaite que Montréal reste la capitale du rire et se dit préoccupée à l'idée que le festival Just for Laugh puisse migrer vers Toronto. Alors que les allégations d'agression sexuelle entourant Gilbert Rozon ont motivé des humoristes dont Martin Petit, Réal Bélan et Maxime Martin à créer le festival du rire de Montréal, certains craignent que cela fasse baisser la valeur de Juste pour rire. Le pendant anglophone Just for Laugh, se retrouverait ainsi isolé et la mairesse s'inquiète qu'il migre vers Toronto. « Ça me préoccupe », a admis la mairesse hier, « ce sont des choses qu'il faut absolument considérer. Moi, je souhaite qu'on ait un festival de l'humour qui soit fort. Idéalement, on doit demeurer un joueur très fort sur le plan de l'humour, tant au niveau national qu'international. »
I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit. Tim Main Girl. I'm the call at two, but I know you never ask, 'cause I've been the one you assume will last. Past your main girl. Now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face. Baby, come and walk my way. Who's your main girl? Who's your main girl? Who's your main girl? When it comes to four, I'm not there anymore. I'm in Technicolor painting line before your main girl. Your main girl, this insane world. So now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face. Who can help you? Get your shit together.
On vient d'entendre Charlotte Cardin et la pièce Main Girl.
«
Salon du livre, ça commence aujourd'hui à Place Bonaventure. D'ailleurs, Canal M fait tirer des laissez-passer pour le Salon du livre et je vous invite à vous rendre sur le site de Canal M de Vues et Voix, canalm.vuesetvoix.com. Cliquez sur Concours Salon du livre sur notre page d'accueil. Je vous souhaite bonne chance. D'ailleurs, il y a des articles dans la presse, entre autres, Sophie Bienvenue sera fort occupée lors du Salon du livre qui s'ouvre aujourd'hui. Rencontre avec l'auteur et guide de survie pour profiter au maximum de l'événement littéraire. C'est un article de Nathalie Collard. Après une année fort occupée, marquée entre autres par la sortie du film « Et au pire, on se mariera », Sophie Bienvenue se prépare à vivre un salon du livre sur les chapeaux de roue. Entretien avec une auteure qui ne manque pas de projets. « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous », disait Paul Éluard. Et Sophie Bienvenue lui donne raison. Car c'est au Salon du livre que l'auteur de « Chercher Sam » a rencontré l'éditeur qui allait lui permettre de publier son premier roman jeunesse. Avec sa belle jaquette jaune, « La princesse qui voulait devenir générale », publiée aux éditions de La Bagnole, est un roman féministe qui s'adresse aux enfants de 8 ans et plus. Sophie Bienvenue, invitée d'honneur du Salon cette année, a inventé un personnage qui lui ressemble un peu. La petite Emma, une princesse hors norme qui n'accepte pas sa condition de princesse et qui voit beaucoup plus grand. Je n'avais aucune idée de l'âge auquel je m'adressais en écrivant. Je ne connais pas ça, les enfants, avoue-t-elle. Alors, j'ai pensé à ce que j'aimais lire quand j'étais jeune. Sophie Bienvenue a adoré son expérience et songe déjà à une suite, un roman qui parlera de diversité cette fois. Mon chum est noir et donc son fils est noir et j'ai réalisé qu'il n'y a jamais de petit garçon noir dans les livres qu'il lit. Dans les émissions qu'il regarde à la télé non plus d'ailleurs. Même dans les histoires de petits lapins, le petit lapin qui n'est pas bon à l'école est noir. Ça n'a aucun sens. Alors j'ai vraiment envie d'aborder cette question de façon ludique. Je n'ai pas de message dans mes livres pour adultes, ajoute l'écrivaine, mais quand j'écris pour les jeunes, j'ai l'impression d'avoir une mission. Le Salon du livre qui débute aujourd'hui est une grande source de stress pour Sophie Bienvenue qui a reçu récemment un diagnostic de syndrome d'Asperger. « Je n'aime pas trop les foules, les lumières, les textures, serrer des mains », reconnaît l'auteur qui sait maintenant pourquoi elle réagit ainsi à tous ces stimuli. « Mais j'adore rencontrer mes lecteurs et avoir des discussions avec eux, alors ça compense. » Au final, c'est plus positif que négatif. Tout en se préparant pour le Salon du livre, qui dans son cas s'apparente à un véritable marathon, Sophie Bienvenue continue à travailler à ses projets. Et ils sont nombreux. L'adaptation de « Chercher Sam », un scénario de film, un recueil de poésie, un nouveau roman. Et elle a également accepté d'écrire une pièce de théâtre à partir de son roman « Autour d'elle ». « Je sais, je fais beaucoup de choses », dit-elle en riant, « mais j'en profite, j'ai peur qu'un jour tout s'arrête ». Alors on voit le roman jeunesse « La princesse qui voulait devenir générale » de Sophie Bienvenue aux éditions de La Bagnole, 136 pages. Quand la voir au salon? Confidence d'écrivain, vendredi 16h30. Triangle amoureux, samedi 15h. Le salon présente du roman au grand écran, dimanche 14h. Elle sera aussi l'invitée de Renaud Miroy à l'émission Culture Club, dimanche 14h. Jeudi, séance de dédicace, 18 à 19h, vendredi, 19 à 20h30 et au pire, on se mariera. Vendredi, pour Ceci n'est pas de l'amour, 14h à 15h, samedi, 16h à 18h et dimanche, 13 à 14h pour Autour d'elle. Vendredi, 15h à 16h, samedi aussi en début d'après-midi, dimanche en début d'après-midi pour La princesse qui voulait devenir générale et au Par actualité, demain. À Canal M. Restons dans le thème « Petit guide de survie » des dizaines de milliers de visiteurs, plus de 2000 auteurs et environ 1000 maisons d'édition. Visiter le Salon du livre peut s'avérer sportif. Voici quelques conseils pour en faire une expérience positive. C'est encore une fois un article de Nathalie Collard. Attention aux égos fragiles. Pour la majorité des auteurs, les séances de signature sont un exercice de grande humilité. Dans « Passer au salon, 150 anecdotes de Salon du livre » publié chez Québec Amérique, les journalistes Hugo Fontaine et Isabelle Massé ont recueilli les témoignages de plusieurs auteurs, dont celui de Georges Hébert-Germain. Il confiait que, lors d'une séance de dédicace pour sa biographie de Guy Lafleur, les gens ignoraient complètement qui il était. Quand il proposait une dédicace aux lecteurs venus pour voir leur héros, ces derniers répondaient « Si vous voulez ». Claudia Larochelle, qui a déjà signé des livres aux côtés d'India Desjardins, raconte pour sa part qu'une jeune fille lui avait demandé une signature parce qu'elle faisait pitié. Petit conseil aux visiteurs, ménagez l'ego des pauvres écrivains moins connus et ne leur demandez pas où se trouve la table de Patrick Sénécal ou de Louise Penny. Profitez des activités. On aime bien aller au Salon du livre pour faire dédicacer le livre de son auteur préféré, mais le salon, c'est beaucoup plus que cela. Durant 6 jours, on présente des dizaines de tables rondes, des entrevues devant public et toutes sortes d'activités autour du livre. Les occasions d'écouter des écrivains échanger autour d'une œuvre ou d'une idée sont assez rares. Il faut en profiter. Visitez les petites maisons d'édition. Quand l'auteur Sophie Bienvenue visite le Salon du livre, elle en profite pour sortir des sentiers battus. « Je vais visiter les petites maisons d'édition, celles qui publient des romans graphiques ou de la poésie. Souvent, l'éditeur est sur place et on a le temps de discuter. Une bonne idée à emprunter. Échanger avec les auteurs. On est là pour parler, pas pour vendre des livres », confie Marie Laberge dans « Passer au salon », le recueil donc d'anecdotes. Alors si vous ou votre enfant collectionnez les signets, prenez tout de même la peine d'échanger quelques mots avec l'auteur s'il est seul à sa table. Ça lui fera sûrement plaisir. Profitez des heures moins fréquentées. Vous n'aimez pas les foules? Ne visitez pas le Salon du livre le samedi après-midi, vous allez souffrir. Cela dit, ce n'est pas une raison pour bouder le salon. En début ou en fin de journée, ainsi qu'autour de l'heure des repas, l'affluence diminue. À la fin du salon, tout le monde finit par une grippe du C, trois petits points, raconte Marie-Cécile Labrèche dans « Passer au salon ». Nous sommes desséchés, la peau nous craque dans la face comme la Joconde, l'air est sec, les lèvres sont gercées au possible et les yeux sont injectés de sang. Vous voyez le topo? Alors n'oubliez pas de vous hydrater. Bonjour les rhumes, voici l'hiver qui frappe de nouveau à votre porte. Vous le savez à cause du thermomètre extérieur, mais aussi à cause des rhumes qui reviennent à l'attaque. Cela fait maintenant 2 semaines que votre nez coule et que vous toussez. Que faire? Devez-vous consulter? Le docteur répond, la docteure ici, Genièvre, plutôt Guenièvre que j'appelle souvent Genièvre, Guenièvre Terrien, médecin omnipraticienne. Dans la presse d'hier, il est agréable de vivre dans un pays nordique. Nous avons les feuilles d'automne, le patinage, le ski, mais nous attrapons chaque hiver plusieurs rhumes. Vous pouvez compter sur 2 à 4 rhumes par année en moyenne, alors que les enfants en garderie en auront jusqu'à 7. Ayez une pensée pour leurs pauvres parents en vous mouchant. Ces infections virales des voies respiratoires supérieures, comme leur nom l'indique, sont causées par des virus. En fait, une multitude de virus peuvent causer ces infections. Donc, même si vous parvenez à vous construire une armée d'anticorps pour vous débarrasser d'un premier rhume hivernal, vous êtes loin d'être protégé contre les prochaines offensives virales. Certains rhumes peuvent se présenter comme un simple malaise avec un mal de gorge en plus de transformer votre nez en robinet. D'autres seront plus mémorables, allant jusqu'au syndrome d'allure grippale avec toux et douleurs diffuses. À quoi vous attendre lorsque vous commencez un rhume? La plupart de ces infections dureront de quelques jours à 2 semaines. La toux, elle, peut cependant être assez embêtante et perdurer pendant plusieurs semaines, même après votre rhume. Quoi faire pour traverser cet enfer? Vous le savez sûrement, il n'y a pas de pilule miracle pour vous départir des virus du rhume. Cela inclut les antibiotiques qui sont tout aussi impuissants que nous devant ces odieuses bestioles. Il vous reste ce qu'on appelle le traitement de support, c'est-à-dire le contrôle de vos symptômes. Vous pouvez irriguer votre nez avec de l'eau saline, vous pouvez utiliser des médicaments en vente libre, comme l'acétaminophène ou les anti-inflammatoires pour soulager vos douleurs. les décongestionnants semblent offrir un léger bénéfice pour le soulagement des symptômes. Attention, ce sont des stimulants. C'est souvent la toux qui amène les gens au bord du désespoir. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de remèdes qui soient très efficaces pour soulager ce symptôme. Vous pouvez vous auto-prescrire du repos et un chocolat chaud sans risque. Rappelez-vous donc que les antibiotiques ont plusieurs effets secondaires. Reposez-vous et buvez beaucoup de liquide.
Get that cast out.
Et on vient d'entendre la musique très festive de la formation The Cat Empire avec la chanson The Car Song.
Ah oui, ça met beaucoup d'énergie, ça. Et puis, peut-être que ça pourrait prévenir un rhume. Et justement, je voulais juste revenir sur La Docteure répond « Bonjour les rhumes », le texte de Guenièvre Terrien. J'ai conclu un peu rapidement avec un clin d'œil à ce qu'on entend souvent « Reposez-vous bien, buvez beaucoup de liquide ». Mais elle, sa conclusion, je vais vous la lire pour être bien... bien franche et respectueuse du texte. Alors, rappelez-vous que les antibiotiques ont plusieurs effets secondaires et qu'un jour, vous aurez une vraie infection bactérienne qui sera plus facile à traiter si vous n'avez pas été tartiné d'antibiotiques dans le passé. Vous pouvez vous auto-prescrire du repos et un chocolat chaud sans risque. Enfin, si vous souhaitez vous éviter un rhume, lavez-vous souvent les mains cet hiver. Si malgré tout, un virus élit domicile dans vos voies respiratoires, accueillez-le et restez zen, c'est le temps qui gagnera cette bataille. Actualité internationale, les sinistrés du séisme qui a frappé dimanche soir l'ouest de l'Iran exprimaient leur amertume hier soir en se préparant à passer une troisième nuit fraîche hors de leurs habitations détruites ou endommagées. « Depuis deux jours, nous sommes là, sans rien. Nous n'avons pas de tente, pas de couverture », dit un jeune habitant de la ville la plus touchée, Sar E. Paul et Zahab, la plus touchée par ce tremblement de terre qui a fait officiellement au moins 432 morts en Iran, tous dans la province de Kermanshah et 8 en Irak. À 19h hier, les autorités n'avaient pas encore annoncé la fin des opérations de recherche de survivants, après avoir dit dans la matinée qu'elles touchaient à leur fin. Les Australiens ont voté en faveur du mariage gay selon les résultats officiels d'une consultation postale qui devrait entraîner un débat politique sur son éventuelle légalisation. Quelque 62 % des 12,7 millions de personnes qui ont participé à ce vote postal, une procédure très rarement utilisée permettant aux électeurs d'exprimer leur opinion, se sont prononcés pour les unions entre personnes de même sexe, a indiqué le Bureau australien des statistiques au cours d'une conférence de presse à Canberra. Selon Davis Kalish, chef du Bureau australien des statistiques, près de 80 % du corps électoral a pris part à cette consultation de deux mois. La majorité des Australiens est favorable au mariage entre personnes du même sexe, mais une impasse politique empêche tout progrès sur ce sujet depuis plus de 10 ans. Les élus n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la façon d'y parvenir. Le premier ministre conservateur, Malcolm Turnbull, avait promis d'organiser un plébiscite sur le sujet, mais le Sénat a fait échouer deux fois cette proposition. L'armée russe a publié hier des images présentées comme la confirmation irréfutable que les États-Unis, tout en simulant pour la communauté internationale une lutte implacable contre le terrorisme, assurent une couverture à des unités de l'État islamique. Problème, ces preuves diffusées sur les réseaux sociaux présentaient une capture d'écran d'un jeu vidéo de guerre. Les images en cause ont rapidement été supprimées par l'armée russe, qui a ensuite assuré qu'il s'agissait d'une erreur de la part d'un employé civil. Les communiqués du ministère russe de la Défense sont à peu près aussi exacts que leurs frappes aériennes, a commenté le porte-parole de la coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis, le colonel Ryan Dillon. Au moins 4 personnes ont été tuées et 3 enfants blessés par balle hier au cours d'une fusillade dans une école primaire du nord de la Californie, ont affirmé les autorités, précisant que le tireur avait été abattu. Selon le shérif adjoint du comté de Tehama, les coups de feu ont éclaté hier matin dans une maison et se sont poursuivis jusque dans l'école primaire Rancho Tehama, avant que l'assaillant ne soit abattu par la police. L'événement a fait au moins 4 morts et une douzaine de blessés, a-t-il précisé. 3 armes ont été retrouvées sur la scène du crime qui a mobilisé 100 membres des forces de l'ordre, a-t-il souligné, un fusil semi-automatique et 2 armes de poing. Brian Flint, un riverain, a assuré que son colocataire avait été abattu par le tireur, décrit comme un ancien prisonnier. Ce dernier était un voisin fou qui les menaçait, a expliqué M. Flint. Alors, allons-y avec les actualités culturelles. Je cherche ma nouvelle. Je l'ai trouvée. Plongée dans une controverse depuis la sortie de son nouveau spectacle, Guy Nantel comptera parmi les invités de Tout le monde en parle dimanche prochain. Guy Lepage en a fait l'annonce hier au micro de Thérèse Parisien à l'émission Le Québec maintenant. L'animateur de la Grand-Messe de Radio-Canada avait essuyé un feu de critiques après avoir offert une tribune aux 11 humoristes du futur Festival du Rire de Montréal, mais pas à leurs clivants collègues. Guy Lepage a expliqué que la présence de Margaret Atwood et de Jonathan Roberge, dont la participation avait déjà été repoussée de 2 semaines, ne laissait aucun siège vacant pour Guy Nantel le jour de l'enregistrement. Plus tôt dans la journée, ce dernier avait tenté de calmer les esprits sur Facebook. Vous savez quoi? Guilla a tout à fait le droit de ne pas me tendre son micro. C'est son émission et son privilège de choisir à qui il souhaite parler ou non, a-t-il écrit, soulignant que le psychodrame avait assez duré. Et de 28 pour un gars, une fille, après la France, l'Espagne, les Pays-Bas et la Turquie, pour ne nommer que ceux-là, c'est au tour de l'Afrique de mettre la main sur les droits d'adaptation de la célèbre comédie de situation québécoise rebaptisée « Chérie Coco ». Les tribulations du couple africain, dont la diffusion a commencé lundi dernier, ont été tournées à Dakar, au Sénégal. Nous souhaitons à ce nouveau tandem amoureux, Yvan et Marie, de charmer le public africain comme Guy et Sylvie, ont marqué le paysage visuel québécois, affirmé dans un communiqué Arabelle Pouliot, dit Crescenzo, chargée de vendre le format à l'étranger pour le compte des distributions Avanti Ciné Vidéo. Canal Plus Afrique diffusera 100 épisodes de 6 minutes. Des adaptations sont aussi dans les cartons en Chine et en Roumanie, tandis que la Lettonie planche déjà sur la production. Mesmer s'est fait traiter de vieille charogne, de charlatan en pleine télé française samedi. Invité au talk show « On n'est pas couché » pour promouvoir son livre, l'humoriste Jérémy Ferrari a attaqué le célèbre hypnotiseur québécois durant son entrevue avec Laurent Ruquier. Devant plus de 2 millions de téléspectateurs sur France 2, Ferrari a dénigré Mesmer, chose qu'il avait entamée au mois d'octobre en publiant son bouquin intitulé « Happy Muscle ». Le chroniqueur Yann Moi a renchéri en accusant le fascinateur de recourir aux services de comédiens lesquels feraient semblant d'être hypnotisés dans ses spectacles. Joint au téléphone, le producteur de Mesmer, Eric Young, s'est dit attristé du langage utilisé par Jérémy Ferrari pour critiquer son protégé. C'est plate parce que Mesmer est tellement un bon Jack. Il fait ses petites affaires, ce n'est pas une grande gueule. Il a toujours le bon mot pour tout le monde. Le fondateur et président d'Entourage, la boîte de production derrière les spectacles de Mesmer, n'est pas étonné de voir que son client, qui connaît beaucoup de succès en France depuis plusieurs années, soit la cible de commentaires désobligeants. Parce que Mesmer est canadien et quand les gens obtiennent du succès, on peut les attaquer plus facilement. Est-ce que je suis surpris? Non. Est-ce que les propos étaient cinglants? Oui. Eric Young ne croit pas que cet incident entache la réputation de Mesmer en France, où il fait partie des meilleurs vendeurs de billets de spectacle, en plus de co-animer l'émission Star sous hypnose, qui rallie des millions de téléspectateurs sur TF1. Si c'était sorti en début de carrière, on aurait trouvé ça moins le fun, mais aujourd'hui, après toutes ces années de travail, on n'est pas inquiet. Le deuxième spectacle solo d'Alexandre Barrette aura été le bon. Plus de 100 000 billets d'imparfaits ayant été vendus, l'humoriste a décroché un premier billet platine en carrière. Millions de personnes regardent Netflix quand elles sont aux toilettes publiques. C'est du moins ce que révèle une nouvelle étude de géant mondial de streaming parue hier. D'après un sondage réalisé l'été dernier auprès de 37 000 abonnés du service de vidéo en flux continu sur Internet dans 22 pays, 67 % regardent Netflix durant leurs déplacements et 12 % d'entre eux poursuivent leur visionnement même quand ils doivent aller aux toilettes publiques. Compte tenu du fait qu'on estime à 109 millions le nombre d'usagers de Netflix à travers le monde, on peut donc conclure que 8,8 millions de personnes adoptent cet étonnant comportement. Van Hove au FTA. Le prolifique artiste belge Ivo Van Hove sera de retour au Festival Transamérique au printemps prochain avec Kings of War, 8 ans après ses tragédies romaines. Van Hove est l'un des metteurs en scène les plus estimés au monde, la coqueluche de New York et de Londres, avec entre autres ses productions des pièces d'Arthur Miller, Les sorcières de Salem et Vue du pont à Broadway. Kings of War a été créé à Vienne en juin 2015. Avec ce spectacle, le metteur en scène s'attaque à Henri V, Henri VI et Richard III de Shakespeare, trois souverains dans la tempête du pouvoir, et signe une trilogie de fureur et d'éclat. La 12e édition du Festival Transamérique se tiendra du 23 mai au 6 juin 2018. Les billets pour ce spectacle sont en vente dès ce matin, 11h. Dans le droit d'aujourd'hui, des projets de loi pour l'université francophone et Ottawa bilingue. Le gouvernement de l'Ontario a déposé mardi à Queen's Park trois projets de loi très attendus s'adressant à la communauté francophone de la province, incluant un pour la création d'une université de langue française à Toronto et un autre sur les services en français à la ville d'Ottawa. C'est un article de Charles-Antoine Gagnon dans le droit. Le dépôt de ces législations s'est fait en concordance avec les présentations de l'énoncé économique du gouvernement Wynne en chambre. Le gouvernement libéral avait fait part depuis un certain temps de ses intentions de créer une nouvelle université entièrement gérée par et pour les francophones et de modifier la loi concernant les services bilingues à Ottawa. La nouvelle université s'appellera l'Université de l'Ontario français, a confirmé le gouvernement. Sa mission sera de proposer une gamme de grades universitaires et de programmes d'études en français pour promouvoir le bien-être linguistique, culturel, économique et social de ses étudiants et de la communauté francophone de l'Ontario, précise le projet de loi 177 appelé « Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste » dans lequel le projet de loi sur l'université est enchâssé. C'est vraiment un moment historique. Je pense que c'est une grande victoire pour toute la communauté franco-ontarienne. J'ai vraiment des espoirs à propos que cette université deviendra un maillon important dans l'offre d'éducation post-secondaire en français en Ontario, a expliqué la ministre des Affaires francophones et députée d'Ottawa, Orléans, Marie-France Lalonde. Je dois souligner le leadership et la vision de la première ministre Kathleen Wynne et de la ministre de l'Enseignement supérieur Deb Matthews qui nous ont permis d'oser et d'aller encore plus loin pour la communauté, a ajouté la ministre Lalonde. Un comité technique qui sera dirigé par Diane Adam entrera en fonction sous peu, a fait savoir Mme Lalonde. Le comité sera chargé de développer un plan d'affaires, un plan académique et la mise en place de l'université. Mme Adam avait présidé le conseil de planification pour une université de langue française. Le gouvernement provincial veut aussi modifier la loi de 1999 sur la ville d'Ottawa afin que soit reconnu le caractère bilingue de la capitale canadienne. Des chefs Le Camp, les filles contre les gars, c'est dans le quotidien Pascal Girard. Le défi des chefs Le Camp sera de retour pour la troisième fois le 22 février prochain à l'hôtel Le Montagnet de Chicoutimi. Encore une fois cette année, l'objectif sera de récolter au moins 100 000 $. Quatre duos de chefs de restaurants de la région s'y affronteront et le hasard a voulu qu'une équipe de filles se frotte à trois équipes de gars. On a amélioré l'événement. Ce sera un souper 7 services, dont 4 services mettant à l'épreuve nos 4 duos. Les juges seront les convives qui auront à donner une note à chacun des duos, a expliqué en conférence de presse Jacques Tremblay, directeur multirégional chez Le Camp. L'organisme s'engage depuis plus de 35 ans, dont 20 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. Dans le soleil, médaille de l'Assemblée nationale, 5 personnalités honorées des pentes de ski de Vancouver au spectacle de la Saint-Jean-Baptiste sur le Mont-Royal, en passant par les salles de classe de l'Université Laval et un Vietnam déchiré par son régime communiste. La cérémonie de remise des médailles d'honneur de l'Assemblée nationale a fait voyager mardi après-midi. Difficile de rassembler une brochette de Québécois aussi accomplis dans des sphères aussi diverses que celles que formaient les 5 récipiendaires de médailles d'honneur mardi à Québec. La chanteuse Ginette Renaud, le skieur Alexandre Bilodeau, le mathématicien Jean-Marie de Coninck, l'écrivaine Kim Thuy et l'ex-directeur du journal Le Devoir Bernard Descoteaux se sont vus récompensés pour leurs carrières émérites. Décrite comme la meilleure chanteuse du monde par la députée Nathalie Roy, venue représenter la CAQ à la cérémonie, Ginette Renaud était sans surprise très en verbe. Verve, c'est moi, a-t-elle lancé du tac au tac au président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, après qu'il ait annoncé son nom au micro. C'est toujours très gratifiant d'être honoré. J'aime être honoré. Toutes ces belles choses qu'ils ont dit à propos de moi, j'ai presque pleuré, a lancé candidement la chanteuse de 71 ans après la cérémonie. Plus jeune du groupe, Alexandre Bilodeau s'est dit inspiré par le quatuor qui l'entourait mardi, rappelant qu'il a encore beaucoup à accomplir. Honoré pour l'ensemble de sa carrière, de son parcours d'universitaire à la création d'Opération Nez Rouge, Jean-Marie de Coninck se disait pour sa part particulièrement touché que l'on ait souligné ses efforts pour intéresser les jeunes aux mathématiques. Quant à Kim Thuy, dont la famille a fui le Vietnam quand elle avait 10 ans, Jacques Chagnon a salué son enracinement en terre québécoise des plus remarquables et ses œuvres qui habitent complètement l'esprit des lecteurs. Enfin, Bernard Descoteaux a notamment été dépeint comme un rempart contre l'information spectacle au Québec par le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Les Voix de service quotidien. Merci à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée. Je vous retrouve dans quelques instants si vous nous écoutez en direct à l'émission Les Paractualités.